on a des trésors à trouver dans le travail des anarchistes.
L'anarchie, c'est plus lutter contre les dominations.
C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. C'est...
Quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, faut pas s'en priver.
Alternative, autogestion, autonomie, anarchie. Histoire d'A, le podcast des émancipations. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'A, aujourd'hui le A de autogestion. Je reçois Angèle Brichet et Laurie Benisti, qui sont autrices d'une causerie autour de l'autogestion. Donc on va déjà définir un peu ce que c'est une causerie, tout ça. Mais déjà, bonjour mesdames.
Bonjour.
C'était Angèle.
Et bonjour.
C'est Laurie. Comment vous vous êtes retrouvée à faire une causerie sur l'autogestion? Et déjà, c'est quoi une causerie? Qui veut commencer?
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une causerie? Je peux commencer par ça. C'est une forme de conférence, mais on n'utilise pas le terme conférence parce qu'il y a un rapport très sachant et très expert là-dedans, alors que la causerie, ça a plus un ancrage dans l'éducation populaire. Donc c'est vraiment un moment où une personne va partager un sujet qu'elle a creusé, qui l'intéresse, peut-être elle a eu l'expérience dessus, creuser ce sujet et partager tout ce qu'elle a appris dessus auprès de personnes qui seront là pour l'écouter. Donc c'est un format très chouette pour partager du savoir, mais en démystifiant un peu ce rapport justement au savoir et la notion d'expertise de personnes sachantes. Et c'est un format qui est beaucoup utilisé dans les contextes d'éducation populaire.
Ok. Et alors, pourquoi vous avez choisi ce sujet de l'autogestion pour votre causerie?
C'est peut-être plutôt qu'on a choisi de faire une causerie parce qu'on avait envie de parler de l'autogestion. Parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, qu'on a creusé notamment dans un peu la structuration du laboratoire des résistances, qui est l'association que Laurie a créée, et où on s'est rendu compte aussi qu'il y avait plein de façons de faire autogestionnaires qu'on pouvait retrouver aussi dans l'association Avenir Climatique, auprès de laquelle on a fait cette causerie. Donc on s'est dit que ce serait intéressant à la fois pour nous de creuser le sujet et à la fois pour Avenir Climatique de constater qu'est-ce qu'il y a peut-être d'autogestion au sein de l'association.
Comment vous avez travaillé alors ce sujet?
On s'est principalement basé à la fois sur des ressources et à la fois sur nos expériences. Donc c'est vraiment les deux... point d'accroche qu'on a eu, comme l'a dit Angèle, on a vécu beaucoup de choses à Avenir Climatique qui, pour nous, s'apparentent à des formes d'autogestion, mais c'est quelque chose qui n'était pas conscientisé vraiment dans l'association. On le disait par-ci, par-là, un petit peu, mais on n'a jamais vraiment réfléchi à qu'est-ce qui, dans notre organisation, est autogestionnaire, qu'est-ce qui l'est pas. Et effectivement, au laboratoire des résistances, c'est plus quelque chose qu'on a réfléchi et conscientisé et mis en place de façon un peu consciente. C'est pour ça qu'on est un peu revenu aussi sur cette expérience d'Avenir Climatique avec du recul, parce que ça nous a aussi énormément inspiré. Donc il y a beaucoup de... ça part beaucoup de nos expériences en fait, de ce qu'on a vécu, comment ça nous a apporté, à quel point on a trouvé ces fonctionnements autogestionnaires hyper empuissantants et hyper différents de plein d'autres contextes d'assauts, de structures ou autres dont on a fait partie. Donc il y a beaucoup de nos expériences. Et après, on a aussi creusé dans des ressources, notamment deux brochures. Une brochure militante qui se diffuse dans des réseaux et sur lesquels on est tombé. Il y en a une qui s'appelle « L'autogestion, c'est pas de la tarte ». Et l'autre qui s'appelle « L'autogestion entre mythe et pratique ». Donc c'est deux brochures qui nous ont beaucoup inspirés et qui elles-mêmes d'ailleurs partent à la fois d'expériences, de vécu et de ressources théoriques. Et après, au-delà de ça, il y a eu aussi un peu des lectures... de certains livres ou des articles sur différentes expériences autogestionnaires.
Et c'est quoi justement votre rencontre, vous, personnelle, avec l'autogestion? C'est quand que la première fois vous êtes dans une structure qui pratique ça ou qui s'en réclame? C'est l'association Avenir Climatique? C'est la première fois que vous rencontrez l'autogestion? Qu'est-ce qui vous étonne en premier lieu? Peut-être Angèle.
Peut-être ce qui étonne, c'est la rapidité avec laquelle on peut prendre part au projet et devenir moteur, motrice dans les projets, en fait. Parce que... parce qu'on est facilement empuissanté, légitimé, pour le faire, et parce que l'information circule de façon à ce que chacun et chacune puisse rapidement prendre des responsabilités, monter en compétences et voilà, oser passer de l'autre côté de la barrière ou de l'estrade, je ne sais pas, passer un peu du côté apprenant à participant de façon active.
L'objet de cette association, c'est quoi ?
C'est une association qui fait de la sensibilisation sur les enjeux énergie-climat, avec aussi dans la pédagogie, il y a pas mal d'inspiration sur l'éducation populaire. Donc c'est pas une sensibilisation qui va transmettre des choses de façon descendante, ça part vraiment de sources scientifiques pour les vulgariser et pour les transmettre dans du co-apprentissage aussi. Et par exemple, donc nous, on a participé à l'Académie, qui est un des projets de l'association, qui en 4 week-ends nous forme un peu à parler de ces enjeux de façon pertinente et appropriable. Et donc, comme disait Angèle, c'est un espace où on peut très vite prendre des responsabilités et se mettre en action, parce que il y a une année, on a été participante de cette formation, et l'année qui a suivi, on a coordonné cette même formation avec 100 personnes qui participaient et une vingtaine de coachs. Et en fait, chaque année, toutes les personnes qui participent à cette formation, l'année d'après, deviennent coachs. Et c'est une façon de, bah déjà de prendre une forme d'initiative et de passer à l'action qui est assez chouette. Et c'est le cas dans plein d'autres projets de l'association. On peut même proposer des nouveaux projets et les mettre en œuvre, parce qu'il y a vraiment cet espace d'initiative qui est laissé.
La structure de l'association, c'est, il y a quand même des fondateurs, fondatrices, enfin, il y a une forme apparente de verticalité ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Enfin, il n'y a pas de président de l'association, par exemple. Il y a un conseil d'administration, c'est ça, hein, dont on peut faire partie sans prérequis. Et tout le monde peut participer au conseil d'administration, aux réunions du conseil d'administration qui ont lieu toutes les 6 semaines. Donc non, il n'y a pas de forme de verticalité, en tout cas pas qu'on puisse déceler comme ça, rapidement.
Mais donc quand vous proposez un projet, qui prend la décision que ce projet va advenir ou pas, et que ça va devenir un projet de la SOS ?
Alors ça, c'est variable. Si ça implique la responsabilité vraiment de l'association de façon large, y a les conseils d'administration qui sont faits pour ça. Et du coup, là, les personnes qui sont présentes vont décider ce qu'il en est de ce projet. Et ça peut être de plein de façons différentes. Il y a plein de votes différents. On prend des conseils, des avis. Il peut y avoir des temps de consultation aussi. Et en tout cas, on décide pendant ces moments-là. Et après, quand c'est un niveau un peu plus bas, quand c'est au niveau d'un projet spécifique, souvent il y a des formes de mandat, en fait, où l'académie, par exemple, dont on a parlé, il y a 2 personnes qui coordonnent le projet. Et du coup, c'est plutôt elles qui ont le mandat, en fait, d'amener que les choses s'organisent, de parfois prendre des décisions, mais en fait, parfois, ça se prend aussi avec les autres coachs. C'est assez variable, mais en fait, il y a des espaces qui sont donnés, et ça en revient aussi à une des définitions de l'autogestion, c'est que c'est un mode d'organisation, on décide collectivement. Donc effectivement, les choses se décident collectivement, mais ça ne veut pas dire que tout le monde décide de tout le temps. Il y a aussi des espaces qui sont dédiés, il y a des mandats qui sont donnés, et évidemment, ça permet aussi d'avancer plus vite, parce que si chaque moindre décision devait être prise par tout le monde, ce serait compliqué, mais c'est juste que les règles, notamment, sont décidées collectivement. Donc on a décidé à l'Avenir Climatique de justement se doter de 2 personnes coordinatrices du projet de l'Académie, parce que il y en a besoin. Sur d'autres projets, on décide différemment. Mais donc on décide collectivement de notre fonctionnement et de nos règles. Et ensuite, il y a différents espaces où on peut décider en autonomie, ou en petits groupes. Et voilà.
Dans votre causerie, il y a toute cette question autour du pouvoir sur et du pouvoir d'eux. C'est quoi cette notion que vous vouliez aborder, enfin ce distinguo qui vous semblait important ?
Le pouvoir sur, ça serait un peu le pouvoir qu'on détient soit de façon verticale, parce qu'on est dans une structure qui fonctionne de façon verticale, soit un pouvoir qui se décèle pas tout de suite et qui est pas donné, mais qui finit par arriver malgré tout, parce que mauvaise habitude, parce que sans s'en rendre compte aussi parfois. Et le pouvoir 2, c'est un peu... Enfin, le pouvoir d'autogestion, du coup, c'est plus l'inverse. C'est le pouvoir qu'on va donner au groupe et à chacun et chacune pour éviter que certains détiennent plus de pouvoir. Par exemple, en ce qui concerne l'information, donc il y aurait d'un côté le fait de détenir des informations. Ça va nous conférer du pouvoir, ça va nous donner du pouvoir que d'autres n'auront pas, parce que on est au courant de plus de choses, parce que on est au courant de certaines informations avant les autres, etc. Alors que le principe d'autogestion, ça serait de diffuser l'information et trouver les bonnes façons adaptées à la structure pour diffuser les informations de façon à ce que tout le monde détienne l'information de façon la plus égale possible.
Donc à chaque fois, en fait, l'idée de l'autogestion, c'est de réfléchir à comment se structure le collectif pour que ne se crée pas des pouvoirs à certains endroits. Donc c'est, là, tu parles d'information, mais j'imagine qu'il y a d'autres questions qui agitent ce genre de prise de pouvoir. C'est quoi ?
D'autres principes d'autogestion ?
Non, enfin, ou d'autres risques, ouais, de prise de pouvoir.
Ouais, effectivement, c'est assez... C'est assez subtil, enfin, on peut très vite passer d'un pouvoir sur à un pouvoir 2 et vice versa, et du coup c'est un peu aussi un travail constant de mettre en place des dispositifs, en tout cas c'est un travail continu, et on peut penser aussi au pouvoir de parole par exemple. Le pouvoir de parole, ça peut être à la fois un pouvoir sur quand c'est des personnes qui le détiennent de façon... à ce que ça enlève cet espace pour d'autres personnes. Et d'ailleurs, là-dedans, il peut se jouer beaucoup de rapports d'oppression, de rapports de genre, de classe sociale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer avec des rapports de domination plus systémiques de société qui se retranscrivent dans notre capacité à utiliser cet espace de parole. Donc le pouvoir sûr, il peut très vite venir là-dessus. Et à l'inverse, le fait de mettre en place des choses qui permettent de faire en sorte que la parole devienne un espace d'incapacitation et d'émancipation pour des personnes qui, en tout cas dans le cadre des systèmes de nation, ont tendance à être plutôt opprimées là-dessus, ça fonctionne plus comme un principe d'autogestion, parce que c'est aussi un espace où peuvent se jouer soit des inégalités, soit on a envie de mettre en place plus d'égalité dedans. Donc la parole peut devenir soit un espace d'oppression, soit un espace d'émancipation, et ça dépend aussi de ce qu'on met en place au sein d'un collectif pour faire en sorte que ce soit plus émancipant qu'opprimant.
Mais donc par exemple, si on prend le bâton de parole, qui est une technique où au moins on s'assure que tout le monde va parler, va avoir le droit de parole, et que pendant ce moment-là, tout le monde va se taire, enfin tous les autres, donc ça permet pour moi l'émancipation, c'est-à-dire qu'on est sûr que tout le monde a le droit à la parole. Est-ce que ça permet complètement de se défaire de ces jeux, par exemple, de maîtrise de la parole? Et donc moi, j'entends plutôt des choses de classe sociale, où effectivement, selon d'où on vient, la prise de parole, elle est plus fluide, plus structurée, plus percutante, peut-être, j'en sais rien. Enfin, donc ça, comment on arrive à sortir de ces jeux systémiques qui sont là, quoi, et qui nous traversent tout le temps?
Je pense que si on savait comment s'en sortir, on serait peut-être pas là, okay. Mais en tout cas, enfin, à défaut d'avoir une bonne réponse, peut-être que déjà le fait de constater tout ça et de s'en rendre compte, c'est déjà un premier pas. Y a plein d'endroits où la prise de parole est inégale et où on se pose pas la question en tant que structure. On se rend pas compte que c'est un problème. De le constater, de faire des retours sur ce qui vient de se passer, c'est aussi des choses... Il y a des choses qui existent, comme le calcul de la parole, est-ce que c'est un homme qui a parlé, est-ce que c'est une femme qui a parlé, comparer un peu les temps de parole. On peut aussi juste le verbaliser quand c'est possible. Là, trois fois d'affilée, ce sont des hommes qui ont pris la parole. Donc, moi, je pense
beaucoup à ça, et du coup c'est aussi très binaire, mais enfin c'est un premier exemple. Et puis bah, d'en être conscient aussi, chacun et chacune, de savoir d'où on vient, de savoir avec quelles expériences on arrive là où on est, quelles sont les expériences des autres, et qu'est-ce qui fait que il peut y avoir une inégalité, soit dans le fait d'oser prendre la parole, soit dans la façon dont on va prendre la parole. À mon avis, c'est déjà un début. Je pense que sur la question de la classe sociale, il y a des petites choses qui peuvent être mises en place, comme déjà répéter et répéter et répéter qu'il n'y a pas de bonne façon de prendre la parole, que c'est pas la peine de faire des prises de parole très longues, très compliquées, machin, enfin de vraiment visibiliser ça au début de réunion et le faire de façon assez systématique. Il y a aussi le fait, parfois on utilise un peu des signes de parole non-verbaux, on fait par exemple un L avec ses doigts, pour dire niveau de langage, c'est quand des personnes, dans leur parole, ont un niveau de langage qui peut être excluant pour d'autres personnes. Et du coup, on peut faire ce signe pour un peu ramener à, ok, ben, là, c'est peut-être ça peut être un peu classiste, en fait, des façons de parler. Mais en tout cas, ça peut soit exclure d'autres personnes qui ne comprendraient pas, soit rendre encore plus difficile la prise de parole, parce qu'on a l'impression de ne pas parler aussi bien. Donc des petites choses comme ça qui peuvent paraître anodines, mais qui en fait peuvent faire une grande différence quand on les met vraiment en place et quand on les systématise et quand on comprend aussi pourquoi on les met en place.
Comme à chaque fois, vous pourrez retrouver une bibliographie liée à cet épisode sur le site histoiredalepodcast.fr. Et donc ça, il y a tout un processus pour le collectif de prendre conscience de ces outils, de ces gestes, de ces rappels, et donc ça veut dire qu'il faut un temps d'acculturation, qu'il faut prendre le temps pour que le collectif se forme, et quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qu'on leur explique, ça fait vraiment partie de la démarche autogestionnaire. Je vous vois faire oui de la tête.
Ouais, je pense que ça fait partie de culture de groupe aussi, et que c'est des choses comme on a dit un peu tout à l'heure, qui demande à être travaillé de façon très continue. Et quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, de répéter un peu le cadre de règles dans lequel on évolue. Quand à chaque conseil d'administration, bah, de ne pas partir du principe que tout le monde a un peu les codes de comment on fonctionne, mais de les reposer, de les répéter. Ça peut paraître parfois fastidieux, répétitif de faire ça, mais en fait, c'est assez essentiel. Dans les week-ends de formation qu'on fait, pareil, reposer des choses en début, d'en parler dans des cercles informels, de se former aussi, évidemment. Il y a le côté, ben, on va faire ce genre de causerie pour prendre du recul sur nos actions et sur comment on les porte, ou faire des ateliers sur les oppressions systémiques ou autres. Ça fait vraiment partie d'une dynamique de se constituer aussi une culture commune. Et de l'entretenir surtout, et de l'améliorer continuellement, parce qu'on a toujours des limites, et nous on a l'impression que l'avenir climatique c'était un contexte impuissantant et où l'autogestion on a vraiment l'impression d'avoir vécu de l'autogestion, mais évidemment c'est pas parfait, il y a encore plein de limites qu'on pourrait aussi citer, et c'est toujours un travail continu, donc à entretenir. Ouais.
Oui, de toute façon je pense qu'il n'y a pas de système parfait, quoi. Donc c'était quoi, vous, les limites qui vous sont apparues intéressantes, et les angles morts qui n'avaient pas, été conscientisés par le collectif?
Moi, je pense que quand je suis arrivée dans ce collectif, il y avait une volonté d'horizontalité, d'aucune hiérarchie, mais on ressentait quand même fortement une hiérarchie à la fois un peu issue de l'expérience des personnes au sein de l'association, donc de l'ancienneté, mais aussi, alors je ne sais pas si on peut dire d'une posture ou d'un certain charisme ou d'une certaine facilité, aisance à prendre la parole, mais toutes ces choses-là, ça donnait l'impression qu'il y avait quand même des personnes vers qui il fallait se tourner pour avoir les réponses, que le savoir était détenu par certains ou certaines, et peut-être plus certains d'ailleurs. C'est des écueils qu'on retrouve très facilement, notamment dans les structures horizontales, parce que puisque le pouvoir n'est plus détenu par l'issue d'un vote ou une ou par le poste qu'on peut détenir dans une entreprise ou quelque chose comme ça, bah en fait, le pouvoir se retrouve toujours d'une autre façon et donc on retrouve beaucoup plus facilement ces risques que là de prendre plus la parole plus facilement et donc avoir plus de pouvoir ou de, selon aussi notre facilité à créer du lien avec les personnes, on va détenir plus d'informations. Enfin, je pense que ces choses-là se retrouvent d'autant plus facilement dans les structures où on a une volonté d'horizontalité.
Ce que ça me fait penser, ce que tu dis, au fait qu'on a un peu ajouté ce pouvoir d'affinité, où nous, quand on a creusé un peu dans les brochures et tout ça, on a trouvé 8 types de pouvoirs qui pouvaient exister dans des collectifs, de pouvoirs sûrs, du coup. Mmh. Et donc, dans la causerie, on a creusé ça un peu pour voir comment ça s'incarnait à l'inverse en principe autogestionnaire pour limiter ces pouvoirs sûrs. Et il nous a semblé, effectivement, en parlant de nos expériences, qu'il y avait quelque chose qui pouvait aussi jouer dans les rapports de pouvoir, c'était les affinités, en fait. Et le fait qu'il peut... Alors, on n'a pas trop vécu à l'avenir climatique, j'ai l'impression qu'on l'a plus vécu dans d'autres collectifs, justement. Mais ce phénomène un peu de cool kids, ou de, en fait, la facilité à créer de l'affinité, et d'ailleurs dans laquelle ça peut jouer sur d'autres aspects, sur aussi des rapports de genre, de classe ou autre. Mais en tout cas, le fait de former des affinités fortes au sein d'un collectif, ben, ça peut aussi créer une forme de pouvoir qui peut exclure des personnes qui mettent plus de temps à créer du lien, qui ont plus de difficultés, ou juste qui ont des temporalités, des rythmes différents. Et ça, ça peut créer des bulles un peu de personnes qui ont des affinités très fortes et qui, ouais, qui peut créer une forme de pouvoir, que ce soit dans des moments de travail et d'action du collectif ou dans des moments informels aussi. Et on s'est rendu compte, ouais, qu'on l'a peu lu dans des brochures ou dans des sources, mais en tout cas dans nos expériences, on a l'impression de l'avoir vécu. Et on a eu l'impression que ça pouvait s'apparenter à un pouvoir, et du coup, à l'inverse, on peut travailler sur des principes autogestionnaires pour éviter que ça se transforme en pouvoir.
Et donc ces pouvoirs-là que vous avez listés, qui peuvent devenir des pouvoirs sûrs, c'est quoi, là, si on doit faire la liste de ces pouvoirs, pour qu'on travaille tous et toutes à prendre conscience de ce qui peut traverser nos collectifs? L'information, moi, c'est vrai que quand j'ai lu, en fait, c'est quelque chose que je maîtrise mal. En fait, je pense que j'ai jamais été dans des collectifs où j'ai été confronté au fait que quand des gens avaient de l'information que je n'avais pas, ça leur donnait du pouvoir sur moi. Enfin, donc c'est un pouvoir que je vois mal, en tout cas. Mais
juste sur le pouvoir d'information, pour rebondir, je pense que c'est quelque chose de très subtil et ça peut être inconscient, en fait. C'est pas j'ai une information et je vais la garder pour moi et la retenir parce que j'ai envie de la garder juste pour moi. Je pense que ça peut jouer sur des trucs très subtils de ça peut être en lien avec le pouvoir de présence d'ailleurs, de en fait personnes qui vivent des choses, qui ont accès à une information et qui juste soit oublient de la transmettre au reste du collectif, soit ça fait pas forcément partie de la culture de transmettre ça, et ça peut jouer dans les boucles d'information aussi, où par exemple il y a des boucles signal mais qui sont pas accessibles à tout le monde, et du coup il y a des personnes qui se retrouvent à pas comprendre, dans des réunions on prend des décisions mais sans les expliciter. Bah, des personnes qui n'ont pas participé à la prise de décision ont juste voir la décision, mais sans avoir les informations derrière de tout ce qui se joue derrière. Enfin, ça se joue dans des trucs peut-être plus subtils et moins conscients que juste retenir une information, quoi. Mais après, donc, il y a plein d'autres pouvoirs qui existent.
Bon, on a déjà parlé du coup du pouvoir d'affinité. On a aussi parlé du pouvoir de la parole. Il y a aussi le pouvoir de compétence. Qu'on a tout simplement quand on a des compétences, par exemple les compétences de comptabilité par exemple, ou alors des compétences en numérique, en communication, si peu de personnes détiennent ces connaissances, ça confère à ces personnes un pouvoir parce qu'elles sont les seules à pouvoir mettre en application des choses, à pouvoir proposer, etc. Alors que souvent, dans le cadre associatif, en tout cas, il y a des compétences qu'on peut vraiment diffuser. La compétence de gestion comptable, par exemple, peut se diffuser et c'est quelque chose qui peut un peu impressionner et donner l'impression que ça va être très technique, etc. Mais en fait, ça se diffuse et on peut choisir de diffuser cette compétence. Voilà.
J'imagine que l'idée n'est pas de nier les compétences, mais de juste faire attention à ce que le fait qu'on ait une compétence ne nous donne pas un pouvoir sur le collectif. C'est ça le...
Bah, pour donner un exemple concret, tu parlais du design et du graphisme. Au laboratoire des résistances, quand on a initié le projet, on a un peu voulu, on a identifié par exemple, le graphisme du site internet ou des plaquettes de présentation d'un atelier, ça pouvait être important pour lancer un peu un projet. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une personne au sein du collectif qui est designeuse graphique. Et du coup, elle a travaillé là-dessus. Donc, elle a mis en place plein de choses et en fait, elle avait cette compétence. Donc, c'était chouette de pouvoir se reposer sur elle et de la valoriser aussi. Elle a été rémunérée pour ça. Enfin, c'était super de l'avoir à ce moment-là. Mais en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte que tout ce sur quoi elle avait travaillé, donc un manuel d'animation pour animer un atelier, une plaquette de présentation d'un atelier, mais en fait, elle détenait cette compétence et personne autour ne pouvait modifier ces documents et on devait sans cesse faire appel à elle.
Facile à dire.
Ouais. Et donc, non seulement ça a créé une forme de dépendance à cette compétence et à cette personne, du coup, qui détenait un peu la main sur toutes les modifications de ces documents. Et bon, ce serait pas problématique si c'était un mandat. À nouveau, on a besoin d'avoir une personne qui gère cette compétence et il faut anticiper juste quand cette personne va partir pour soit trouver quelqu'un d'autre, soit pour diffuser. Mais il y a aussi eu ce qui a émergé, le fait qu'il y a des personnes qui avaient envie, en fait, de monter en compétence sur le design, sur le graphisme, qui s'y connaissaient, mais qui n'ont pas un cursus professionnel et qui, du coup, se sentent pas légitimes face à une designeuse professionnelle et qui détient cette compétence. Donc ça a créé des questions à la fois de dépendance à cette personne et du fait que, du coup, ça empêchait d'autres personnes de s'impliquer et de d'apprendre en fait sur cette compétence-là. Donc en fait, ça dépend du contexte, ça dépend de qui a envie de s'impliquer, de combien de temps la personne va rester, mais c'est en tout cas à réfléchir au moins. C'est pas impossible quoi de se reposer sur une personne, mais il faut faire attention à ce que ça devienne pas.
Ouais, faut toujours avoir conscience des choix qu'on fait quoi en fait quelque part. Moi j'ai l'impression que c'est pas tant enlever les pouvoirs que de les nommer, les regarder et être vigilant, vigilante sur le fait que ça déborde pas, quoi.
Et les partager éventuellement quand c'est possible. Et peut-être que dans l'exemple dont tu parles de design, d'outils, peut-être que c'est pas évident de partager ce pouvoir très rapidement, peut-être que ça demande une formation qui a duré plusieurs années. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on peut partager au maximum les pouvoirs.
Oui, c'est même penser dès le début qu'on veut des outils qui soient modifiables, en tout cas une plaquette modifiable par, pas forcément n'importe qui, mais au moins trois personnes qui ont la capacité de le faire. Parce que j'imagine que la vraie question de pouvoir, c'est je veux faire une nouvelle orientation de cette plaquette et la designeuse n'est pas OK avec cette orientation qu'on veut donner. Et comme il y a quelqu'un qui peut le faire, là, d'un coup, on va être dans une vraie question de pouvoir, quoi. C'est quoi les autres ?
Il en reste quelques-uns. Tu veux dire cela ?
Ouais, donc on a dit pouvoir d'initiative, d'information, de compétence, d'affinité, de parole. Il y a aussi le pouvoir de coordination, parce que je crois que j'en ai un peu parlé aussi. Le fait d'avoir la vision globale un peu de tout le projet. Et c'est quelque chose qui est difficilement appropriable par toutes les personnes qui sont juste là pour être bénévoles. Mais en même temps, ça permet aussi de comprendre dans quoi on s'inscrit. Il y a le pouvoir de gouvernance. Donc là, c'est la façon dont on s'organise. Si c'est une organisation très verticale, il y a un chef, plusieurs chefs, ou si c'est organisation horizontale. Il y a le pouvoir des dominations systémiques, justement. Ça, c'est relié à ce qui s'inscrit dans nos sociétés, comment le racisme, le validisme, le sexisme, comment toutes ces oppressions systémiques peuvent s'insérer et s'insinuer un petit peu dans le fonctionnement d'un collectif et du coup comment mettre en place des dispositifs pour qu'on puisse s'émanciper de ces rapports de pouvoir et qui se retrouvent pas dans plein d'endroits du collectif. Donc ça, c'est un truc très important aussi dans l'autogestion, c'est la prise en compte de ces rapports de pouvoir très concrets et qui viennent d'un système, quoi. Et après, pas vraiment un pouvoir, mais un autre principe autogestionnaire, c'est l'adaptabilité et le fait de faire évoluer nos règles. On est dans une société où les règles, si on prend l'échelle un peu macro, les règles et les lois sont tellement ancrées, mettent tellement de temps à changer, à évoluer. En fait, au sein d'entreprises, parfois c'est pareil. ou au sein de collectifs, parfois ça crée un blocage parce qu'en fait, les contextes sont super mouvants et on a besoin de pouvoir réadapter et faire évoluer les règles dont on se dote ou notre organisation selon là où on en est, selon le contexte environnant, selon la composition du collectif. Il y a vraiment le fait de prendre en compte aussi les besoins et les situations des personnes au sein d'un collectif. Et ça demande à ce qu'on puisse être flexible et adapter facilement les règles. Donc c'est aussi un principe d'autogestion.
Mais ça veut dire par exemple qu'il faut que régulièrement le collectif s'interroge sur les règles qui s'est donné, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut formaliser les choses en disant tous les 6 mois il faut qu'on réfléchisse aux règles, ou ça veut dire qu'il faut juste que tous les membres du collectif soient au courant du fait qu'à tout moment on peut dire, attendez, est-ce qu'on peut faire une pause là et juste réfléchir aux règles ensemble, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Enfin, c'est quoi qui vous semble le plus adapté à un fonctionnement fluide de toutes ces questions? C'est plus de formalisme ou plus d'initiative? Enfin, je ne sais pas si c'est contradictoire hein, ce que je dis, mais...
J'ai l'impression que les deux pourraient convenir. Que peut-être que c'est rassurant de se donner des rendez-vous réguliers, de se dire on y réfléchit de nouveau dans 6 mois, on y réfléchit de nouveau dans 1 an, et puis qu'en fait, spontanément, parfois, on constate par l'expérience qu'on a besoin d'en parler là maintenant. Donc j'ai l'impression que les deux peuvent convenir.
Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee.
Et moi, j'ai une autre question sur ces questions de gouvernance partagée ou horizontale. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui est très exigeant pour l'individu. C'est-à-dire que ça demande à chacun et à chacune de connaître les règles, d'être attentif à beaucoup de choses, que ça demande de prendre des initiatives, et que c'est quand même assez exigeant, alors que je pense qu'il y a aussi des personnes, peut-être des tempéraments, je ne sais pas, qui ont plus envie de se laisser porter par le collectif et d'être des exécutants de tâches qui ont été décidées ailleurs, et qui a un certain confort aussi à se laisser porter comme ça par des choses sans forcément mettre de l'énergie à la prise de décision. Est-ce que vous avez expérimenté des collectifs où justement on accepte en fait ces différents types de profils, quoi? Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit.
Si, je pense que ouais, c'était clair. Okay. Et j'ai envie de répondre en deux sens différents. Je pense que parfois il y a un peu on s'habitue à une culture de justement un peu de faire et d'exécuter, et que il y a une intention au final dans l'autogestion, c'est aussi de reprendre son pouvoir d'action et de se ressentir capable de prendre des initiatives. Donc dans certains cas, je pense que ça peut aussi soit faire changer, soit aider des personnes qui ont plus tendance à juste suivre ou faire, à ben retrouver un peu leur pouvoir d'agir et du coup se reconnecter aussi à elles et à leur façon de faire les choses, à ce qu'elles peuvent apporter dans un collectif. Et en même temps, je te rejoins sur le fait qu'évidemment, déjà on est tous différentes et que on n'a pas, enfin, les principes autogestionnaires, ça ne veut pas dire que tout le monde doit s'impliquer énormément et tout savoir sur tout et tout faire partout. C'est vraiment laisser cette possibilité de s'impliquer à hauteur de ce qu'on a envie de faire, mais que ça reste possible en fait de, par exemple, l'avenir climatique, il y a plein de niveaux d'implication différents, mais on peut être simplement coach pendant un week-end et du coup animer des choses pendant ce week-end-là, et parfois rien que ça, c'est un espace d'incapacitation, sans qu'on ait besoin pour autant de comprendre, c'est toujours intéressant de comprendre la vision globale de l'académie pour bien animer justement, mais sans qu'on ait besoin de s'impliquer sur toute l'organisation de l'année, et sur les comptes de toute l'association, sur les autres projets de l'association. Et il y a des personnes qui savent que ce qu'elles ont besoin de savoir pour trouver leur place là où elles sont, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il y a ce double truc de quand même essayer de favoriser ce pouvoir d'action et cette incapacitation des gens, et en même temps faire selon chacun et chacune ce qui est là pour elles, quoi.
Ok, ça me va. Puis en plus moi, je vois aussi que moi-même, personnellement, il y a des moments, en fait, j'ai plus ou moins d'énergie, et donc il y a des fois, j'ai envie clairement d'être salarié, par exemple, et des fois, je suis très content d'être indépendant. Et donc, je vois bien que j'oscille entre les deux, et j'aimerais bien qu'on me dise quoi faire, et à des moments, j'ai envie de prendre ma vie en main.
Ça me fait penser que dans une des définitions de l'autogestion, il y a le mot autonomie qui revient, et dans autonomie, il y a l'autonomie de gestion et la gestion des autonomies. C'est un peu deux facettes de l'autonomie. Et dans l'autonomie de gestion, c'est plutôt d'un point de vue extérieur le fait qu'au sein du collectif, on est autonome pour prendre nos décisions et pour fonctionner sans qu'on soit influencé par d'autres choses extérieures. Et la gestion des autonomies, justement, c'est là où ça a un lien avec ce que tu disais, c'est que c'est gérer les différentes personnes au sein du collectif et gérer l'autonomie de chaque personne, en fait, et du coup prendre en compte les situations de chaque personne, les moments où il va y avoir beaucoup d'énergie, où il va y en avoir moins, gérer les besoins de chaque personne et se dire qu'au sein d'un collectif, c'est pas une unité homogène, mais c'est aussi plein d'autonomies différentes qu'il faut apprendre aussi à équilibrer, à gérer.
Excellent. Donc toi, tu disais qu'au laboratoire des résistantes, tu avais eu une réflexion plus consciente de vouloir mettre de l'autogestion dans ce collectif-là, donc de manière assumée. Ça voulait dire quoi, avoir une démarche consciente de cette question-là ?
Je pense que ça s'est beaucoup joué sur le fait de conscientiser, simplement, que ce qu'on est en train de faire, là, ça peut s'apparenter à une démarche de gestion. Et je pense qu'on ne l'a pas non plus fait... Enfin, on ne l'a pas non plus énormément fait. Je pense que c'est plus comme c'est un projet qui débutait. C'est une intention qui a été posée au début. On a pour intention que notre mode d'organisation soit autogestionnaire. Et ensuite, on ne l'a pas tout le temps fait, mais je pense que c'est toujours intéressant de le faire, de quand on fait quelque chose, de dire bah ça c'est intéressant, par exemple, quand on fait des réunions, des conseils d'administration et qu'on prend des décisions et qu'à la fin, on dit que ces décisions, on a envie de les expliciter vraiment, parce qu'il y a cette intention de diffuser l'information pour que les personnes aient les informations, puissent prendre l'initiative et que ça. Enfin, c'est en lien avec des principes autogestionnaires. Juste de conscientiser les choses, en fait, je pense que ça peut motiver et impliquer aussi, faire en sorte que ces démarches-là, elles soient appropriables par plusieurs personnes et aussi que ce soit un espèce d'apprentissage au final sur tout ça.
Et donc, ça veut dire quand même du temps. Enfin, je veux dire, c'est dans le fonctionnement général, quand on est pyramidal, tout ce temps-là de partage d'informations, de discussions, de réflexion autour des règles, de redéfinition des règles, c'est un temps qui n'existe pas dans une structure verticale. Et donc là, ça veut dire qu'il faut conscientiser le fait que ça va prendre du temps, quoi. Il y a plein de gens, j'ai l'impression, qui vont se dire « Bon, ben ça, c'est un temps qu'on n'a pas en situation d'urgence ou qu'on n'a pas le temps de prendre dans un environnement de business. » Enfin, je sais pas, j'essaie de réfléchir comme ça, mais... Qu'est-ce qu'on répond à ça ?
Non, j'allais surtout rebondir sur le fait que c'est sûr que c'est du temps qu'il faut prendre pour transmettre les informations de façon claire et à tout le monde. Et ensuite, il faut prendre du temps pour accueillir les réactions, les retours, peut-être les désaccords avec ces décisions et donc les remettre en question. Donc c'est vrai que c'est à deux niveaux du temps qui n'est pas... qui n'est pas pris dans des structures où une personne décide et impose sa décision et uniquement sa décision et pas tout le fil de pensée qui l'a fait arriver jusqu'à là. Et donc, quelles sont les solutions ?
Non, moi c'est plutôt... moi mon expérience c'est qu'en fait une fois qu'on a pris ce temps-là, on a un collectif qui est hyper conscient de tout ce qu'il fait, de pourquoi il le fait, et donc on a une énergie qui est beaucoup plus forte. Donc quelque part, j'ai l'impression que moi, que tout ce temps, entre guillemets, qu'on pourrait penser avoir perdu à expliquer les choses, en fait, on le gagne parce qu'on a démultiplié l'énergie. Mais je sais pas si c'est vrai dans tous les collectifs que vous avez traversés, quoi.
Je pense que c'est vrai, et que ça, ce que ça produit comme effet, c'est aussi le temps gagné sur les éventuels conflits qu'on peut éviter, ou tensions qu'on peut éviter, ou burn-out qu'on peut éviter, ou enfin que sais-je, de choses qui dysfonctionnent dans d'autres organisations collectives qu'on peut éviter. Après, c'est sûr que c'est des effets plus invisibles et plus indirects, donc c'est super dur de jauger, et parfois on se dit « Non mais là, on est en train de prendre trop de temps sur cette décision. » Enfin, c'est aussi des choses que dans l'autre sens où c'est vrai, parfois on prend trop de temps. Il y a aussi un enjeu du coup à réfléchir sur comment mettre en place ces principes pour éviter tout ce qu'on vient de se dire, tout en... un peu optimisant notre énergie dessus. Donc je pense qu'il y a un peu un juste équilibre à trouver entre ces deux pour pas passer trop de temps, parce que parfois c'est le cas et ça arrive, et en même temps passer suffisamment de temps pour vraiment mettre en place les choses, c'est aussi nécessaire, quoi. Mm-hmm. Et pour prévenir d'autres choses.
Et là, c'est assez challengeant pour les personnes qui vont, par exemple, être mandatées, par exemple, pour coordonner tel ou tel projet. Quelle est la part des choses qu'il faut partager avec les autres personnes du projet et il faut leur demander leur avis et quelles choses on peut décider, nous, en petit groupe. Donc, il y a toujours ce questionnement et ce doute. Et puis, parfois, on ne sait pas trop et donc on propose à l'ensemble du groupe des décisions où du coup, on va être à 25 à réfléchir à est-ce qu'il faut imprimer des diplômes en format papier ou est-ce que ce n'est pas utile, ça fait un souvenir et en même temps, ce n'est pas écologique. Et, enfin, bien sûr, c'est du vécu, en fait. C'est une situation où on a passé un temps infini et puis à la fin, on s'est dit que bon, personne n'avait... Enfin, tout le monde s'en fichait dans l'absolu du résultat, mais comme on nous ouvrait la possibilité d'en discuter, ben on en a débattu, alors qu'en fait, tout le monde aurait été très à l'aise que cette décision soit prise par un petit groupe de personnes qui coordonnent, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident de savoir où s'arrêter aussi, parfois, honnêtement. Parce que je pense qu'on perd aussi du temps, faut se le dire, enfin, faut être honnête, on perd du temps à ouvrir des débats dans lesquels... donc je pense qu'au bout d'un moment, parce qu'on a appris à essayer de donner notre avis, à essayer d'avoir un avis sur les choses, qu'on est investi, qu'on est engagé dans les projets, ben on a tous envie de donner notre avis, alors qu'en fait, si on nous avait imposé un résultat, il nous aurait convenu quand même, en fait. Ouais, c'est un peu trouver le juste milieu entre les deux.
Bah c'est surtout, je me dis qu'à partir du moment où on mandate des gens, en fait, c'est qu'on leur fait absolument confiance sur le choix qu'ils vont faire. Et donc, quelque part, c'est même pas qu'on nous impose quelque chose, c'est qu'on leur a délégué notre pouvoir de décision. Et on leur a dit, bah, faites votre choix à trois et votre choix sera notre choix et ça nous ira très bien. Non, c'est ça le...
Mais on les mandate souvent sur des choses plus vastes et donc on ne sait pas toujours précisément qu'est-ce que ça inclut, en fait. Quand on est coordo d'un projet, à quel moment est-ce qu'on est mandaté pour prendre des décisions, à quel moment on est mandaté pour faire des propositions. C'est là où ce n'est pas toujours évident de savoir, de savoir trouver le juste milieu.
Ouais, mais d'où l'importance du coup de clarifier aussi les mandats et de définir un peu les contours plus précisément. Et effectivement, enfin, je pense qu'il y a aussi un risque que le mandat devienne justement une forme de pouvoir, où parfois on va prendre des décisions, imposer des décisions, alors que le mandat, ça pouvait être juste de proposer des choses et ensuite de les décider collectivement, et que déjà ce temps de réflexion et de débat qu'on s'évite avec des personnes qui creusent et qui proposent quelque chose, mais ensuite en fait la décision se prend, ou à l'inverse, ça peut être un mandat sur une chose où on sait que le mandat est fait pour décider parce que c'est un diplôme et que on leur fait confiance pour la décision. Mais en tout cas, ouais, clarifier le mandat, ça peut éviter soit des zones de flou, soit des prises de pouvoir, quoi.
Oui, mais j'imagine que la difficulté, c'est que tant que t'as pas creusé, tu sais pas exactement le contour du mandat que tu vas avoir. Donc il faudrait que ça soit itératif, les gens mandatés reviennent voir le collectif pour dire « Alors attendez, il y a un nouveau problème qui se pose, est-ce que ça rentre dans notre mandat ou pas, quoi ?»
Ouais, mais ça, c'est un peu des dynamiques de recherche-action qu'on peut appeler. Mais au final, en expérimentant... Par exemple, l'Académie, ça, c'est la 6e édition, je crois, cette année.
8e.
Bon, voilà, j'ai oublié 2 ans. Ça fait déjà longtemps, mais c'est la 8e édition. Donc, on a eu 8 années pour expérimenter qu'est-ce que c'est le mandat de la coordination. Et où chaque année, en fait, on peut amener des nouvelles billes sur « ben, y a ça qui s'est passé, et du coup, on en apprend, donc on le connaît mieux. » Et ensuite, on le met en action. Dans l'action, on va apprendre quelque chose d'autre. Du coup, après, on va prendre du recul, on va mieux comprendre. Enfin, c'est vraiment des boucles de recherche-action aussi dans l'expérimentation, que ce soit là-dessus ou sur plein d'autres principes d'autogestion. C'est l'importance de... C'est ce qu'on a dit à la fin de notre causerie, c'est que, en fait, l'autogestion, ça se vit plus que ça ne se pense. On a besoin, en fait, d'expérimenter, de tester des choses et ensuite d'avoir des moments de recul pour réfléchir à ce qui s'est fait, ce qui s'est bien fait, ce qui s'est mal fait, ce qui manquerait, ce qu'on pourrait améliorer ou ce qui a super bien fonctionné. Et ensuite, du coup, quand on retourne dans l'action, bah, on connaît un peu mieux les contours. Et voilà, c'est un peu ça, la recherche-action, au final. Et dans l'expérimentation de l'autogestion, je pense que c'est assez important.
Oui, puis j'imagine qu'il n'y a qu'à travers l'autogestion qu'on prend conscience aussi des biais qui nous traversent, des biais systémiques. Mmh. Et qu'il n'y a qu'en les expérimentant qu'on se dit « Ah oui, effectivement, ça fait 4 fois que je prends la parole, mais si personne ne me le dit jamais, je ne pourrai jamais me rendre compte. » Oui. Est-ce que, tout à l'heure, on en a parlé en déjeunant. Est-ce que vous pensez qu'il y a une taille limite d'une structure dans laquelle on peut fonctionner en autogestion? Moi, c'est plutôt mon avis de départ. Je me dis qu'à 200, ça doit être compliqué. À 5000, ça doit être vraiment difficile. Et à 10 000, bah, il va y avoir beaucoup de mandats. Donc, beaucoup de zones potentiellement de prise de pouvoir. Et donc, j'arrive pas à le penser. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est quoi votre avis là-dessus? Je vous laisse réfléchir. Vous avez 2 heures, je reviens tout à l'heure.
Non, mais je pense qu'il y a plein d'échelles différentes d'autogestion. Déjà, nous, notre expérience, c'est à l'échelle d'un collectif, et globalement un collectif plutôt petit. On est à quoi, 50 personnes, selon les projets. Il y a des échelles plus grandes, ça peut se faire à la taille d'une entreprise, d'une coopérative, ça peut se faire à l'échelle d'un festival, ça peut se faire à l'échelle d'un territoire. Il y a des expérimentations dans des territoires ailleurs qu'en Occident, notamment, qui se font. Donc il y a plein d'échelles différentes, mais j'ai quand même, enfin, un peu comme toi, je pense, cette intuition, qui est peut-être pas que de l'intuition, mais que plus la taille d'un groupe augmente, plus on augmente en complexité. Et évidemment, dans la complexité, ben, c'est plus difficile de mettre quelque chose qui fonctionne sur du long terme. Et du coup, je pense pas que ce soit impossible, je pense que c'est juste hyper complexe et difficile et que c'est un sacré travail et que faut à la fois y croire et y travailler et voilà. Et du coup, je pense que c'est comme pour comme pour plein de choses, pour une taille de coloc qui se passe bien, en fait, plus on est à une échelle relativement petite et humaine où tout le monde peut déjà se connaître, rien que ça, plus ça va être facile de mettre en place des choses, de se faire confiance, de se connaître, etc. Et plus on grossit, plus évidemment c'est complexe et du coup difficile de maintenir ce niveau de confiance et de prise de décision collective et de plein d'échelons de mandat. Mais je pense pas que ce soit impossible, en tout cas juste difficile.
Quand tu parlais d'expérience sur des territoires, tu pensais à quelque chose en particulier? Tu disais pas en Europe, mais...
Je pensais un peu peut-être les deux expériences les plus connues, entre guillemets, dans les mondes militants notamment, qui sont l'expérience au Chiapas, donc au Mexique, avec les Zapatistes, qui ont mis en place des fonctionnements très autogestionnaires sur leur territoire, et au Rojava aussi, un territoire kurde, où pareil, il y a des expérimentations inspirées du municipalisme libertaire notamment, donc qui mettent en place ce genre de choses. Après, je suis pas experte de comment précisément ça se passe, les choses qui fonctionnent, qui fonctionnent moins, mais en tout cas, je sais que ça peut se faire à l'échelle d'un territoire. Pareil, la question de la taille du territoire se pose, mais...
Ouais. Bon. Non, mais déjà, on sort du collectif de 30 personnes, donc c'est que déjà, on est dans autre chose, quoi. Alors, je vais laisser passer les pompiers. Oui, tu disais, je ne suis pas experte sur le sujet, et c'était une des questions qui est apparue quand on préparait cet entretien, de la légitimité de prendre la parole sur un sujet, quoi. Et j'ai l'impression que l'autogestion, c'est aussi tout un chemin pour légitimer chacun et chacune, d'où qu'il vienne, quel que soit son parcours, à prendre des initiatives, et donc, pourquoi pas, à prendre la parole sur un sujet. Mais ça, comment vous, ça vous a traversé? C'est-à-dire, quand vous avez eu envie de faire cette causerie?
Oui, c'est sûr que ce qui freine, c'est d'abord la légitimité, de se dire, mais est-ce que d'autres ne savent pas mieux que moi? Est-ce que tout le monde ne le sait pas déjà, puisque moi, je le sais? Est-ce que j'aurais pas dû lire encore 15 livres de plus et écouter 100 podcasts? Et est-ce que j'aurais un jour l'impression de savoir l'intégralité du sujet? Donc il y a ça, il y a la légitimité, et puis après il y a le fait de prendre la parole en public, de se confronter aux réactions des personnes, de se confronter aux réponses et à sa propre capacité à savoir réagir et interagir spontanément. Donc c'est sûr que c'est des questions qu'on s'est posées quand on a eu envie de parler de tout ça.
Et est-ce que, par exemple, le faire à deux, c'était très sécurisant?
C'était beaucoup plus sécurisant que de le faire seul, c'est sûr. Et même dans les phases de travail aussi, je pense que ça nous a vachement inspiré l'une l'autre de se partager des expériences, des vécus, des sources, etc. Mais ce que je me dis aussi, c'est justement l'espèce de causerie ouvert dans ce cadre qu'on connaît.
Ouais, ce sont des choses qui arrivent.
Mais il y a aussi le fait que qu'on a participé à une causerie et pas à une conférence, et dans un cadre avenir climatique où on sait qu'on a cet espace pour partager des choses, c'était aussi super sécurisant parce qu'on savait qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être experte et d'être docteur en autogestion pour parler de ce sujet, et qu'on parlait de nos expériences, de nos vécus et de choses qu'on avait lues aussi à partager, et qu'il y a aussi une forme d'humilité dans ce format qui nous parlait beaucoup plus que tout autre format. Et je suis reconnaissante aussi que ce soit possible et que ça, sur la prise de parole, personnellement, j'ai l'impression d'avoir énormément cheminé grâce à Avenir Climatique, alors que dans d'autres cadres, quand je me souviens au collège où je devenais toute rouge, c'est bête, mais en fait, le collège, ça met en place aussi un contexte où on n'a pas cette confiance, cette légitimité. Enfin, il n'y a pas des choses qui sont mises en place pour faciliter ça du tout. Et c'est le cas aussi dans d'autres contextes, dans d'autres collectifs ou dans d'autres entreprises où les conditions ne sont pas forcément réunies pour se sentir légitime pour prendre la parole sur un sujet qu'on a creusé. Et à la fois le format de la causerie et le fait qu'on était déjà dans un contexte qui mettait en place des principes autogestionnaires, ça a rendu beaucoup plus facile de le faire. Et donc il y a ça aussi dans l'autogestion, c'est d'aider dans les grands questionnements existentiels de légitimité.
Bon, mais alors quand est-ce qu'on fait des formations à l'école et au collège pour faciliter l'autogestion? Je voyais que tu dolinais de la tête, je suis obligé de venir te chercher là-dessus, puisque tu travailles dans un collège. Toi, tu as l'impression, au sein de ton collège, au sein du collège dans lequel tu travailles, d'essayer de mettre en place des endroits où les gens réfléchissent à l'autogestion, enfin, ou en tout cas à d'autres formes de rapports?
Déjà, je peux répondre à pourquoi je dodelinais de la tête. Ouais. C'est juste parce que je trouve ça un peu... je trouve que de comparer nos capacités dans notre vie d'adulte avec ce qu'on a vécu au collège, c'est un peu facile, entre guillemets, parce que, le collège, c'est la traversée de l'adolescence. Et good job pour toutes les personnes qui l'ont traversée. Bravo, ouais. On en est sortis. Et que je me demande comment ça serait le collège si on avait des structures qui étaient adaptées aux besoins des collégiens. Mais est-ce que vraiment ça serait beaucoup plus simple de traverser l'adolescence? Donc voilà, le sujet est ouvert pour le débat. Et maintenant, est-ce qu'on met des choses en place pour favoriser l'autogestion? Pas vraiment, honnêtement. J'ai l'impression que déjà, entre adultes, de se coordonner au collège, c'est un challenge qui est intéressant et qui pose aussi toutes ces questions de se regrouper, de transmettre l'information, de diffuser la parole, de laisser la place à chacun de prendre sa place. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, il y a des gens qui sont syndiqués, qui sont visibilisés comme tels. Il y a des gens qui osent facilement prendre la parole, il y a des gens qui osent revendiquer leurs droits. Donc déjà, entre nous adultes, je trouve ça toujours intéressant de voir comment on fonctionne et comment on essaye de fonctionner en collectif. Et avec tous les écueils, bien sûr, qu'il y a, surtout qu'on n'a pas pensé l'autogestion, on ne s'est pas dit on va fonctionner de façon autogestionnaire. Toutes les personnes qui arrivent là pour travailler n'ont pas forcément cet objectif, même si je pense que c'est quand même l'objectif de certains et certaines. Voilà, donc c'est déjà un sacré challenge entre adultes qui arrivent avec tellement d'objectifs différents, d'expériences différentes aussi, de se mettre un peu d'accord sur certaines choses. Et avec les enfants, il faudrait que j'échange avec mes collègues qui sont devant des classes au quotidien et comment ils font pour favoriser la diffusion de la parole, la prise de parole, l'empouvoirment des élèves, etc. Mais je pense que c'est pas évident quand on a des classes qui sont très nombreuses de prendre ce temps quand il faut transmettre des informations et du contenu de cours, plus que chacun trouve sa place, plus ne pas oublier les personnes qui sont les plus en difficulté, plus faire de la discipline, parce que on en fait beaucoup au collège. J'aimerais bien échanger avec des personnes qui ont ces objectifs en tête et qui essayent de les mettre en pratique pour savoir comment on peut faire. En tout cas, c'est sûr que... Enfin, à mon avis, s'il y avait plus d'espace, plus de... Enfin, moins d'élèves, ça serait déjà plus simple. Après, il y a des choses que l'on constate... que l'on constate très facilement au collège, c'est la différence entre les filles et les garçons et la prise de parole des uns et des autres. Et ça, à mon avis, c'est déjà une première chose, c'est de le constater, de tenter d'y remédier comme on peut, quoi, au fait que chacun puisse prendre la parole. Voilà, ça, c'est une première chose à laquelle je pense. Il y a des personnes qui vont lever la main très facilement. J'ai l'impression qu'il y a un automatisme quand même chez les professeurs de ne pas interroger constamment la même personne, d'attendre que les autres lèvent la main ou osent lever la main. Et en même temps, celui qui a le bras levé depuis 5 minutes et qui commence à avoir des crampes et qui commence à faire des petits bruits pour qu'on le remarque, et bah, il se sent frustré qu'on l'interroge jamais. Donc c'est... Enfin, je pense qu'on est encore loin de parler d'autogestion, quoi. On est déjà sur rien que la prise de parole, quoi, entre les élèves. Et j'avais un deuxième élément de réponse que j'ai oublié, donc je pourrais peut-être y revenir après.
Ben ça, de toute façon, moi, j'ai mon voisin d'en face de palier, lui, il est au lycée autogéré de Paris. Donc je vais bientôt aller voir un peu comment ça se passe là-bas. Mais je ne sais pas si c'est plus dans l'organisation du lycée ou dans la pédagogie que c'est autogéré. Alors tu as retrouvé ton deuxième point.
Oui, et je pense que, bon, j'aimerais bien du coup en discuter avec les personnes qui travaillent dans ce lycée. Ce qu'il y a de semblant de participation des élèves dans les établissements scolaires, c'est le Conseil de la vie collégienne, CVC ou CVL au lycée, qui regroupe différents élèves élus et des adultes de l'établissement et où on va pouvoir collégialement prendre des décisions à partir des envies des élèves. Donc ça, c'est un début. Après, on écoute leurs envies et puis est-ce qu'on peut les faire? Est-ce qu'on veut les faire? In fine, c'est quand même les adultes qui vont décider. Donc il y a cet espace qui est ouvert et moi je trouve que c'est déjà bien, mais c'est pas parce qu'il est ouvert qu'on va répondre à tout. Et d'ailleurs on le voit souvent quand il y a les présentations des délégués qui veulent, des candidats aux élections de délégués qui proposent plein de choses et notamment on fera plein de sorties, on aura le droit de manger en classe et en fait ils se font un peu calmer tout de suite parce que en fait ils n'ont quand même pas autant de pouvoir de décision que les adultes, évidemment. Et voilà, je trouve que c'est challengeant. Et moi, ça fait pas très longtemps que je travaille au collège, mais j'aimerais bien explorer tout ça, toutes ces questions d'autogestion et en même temps, comment le faire pour de vrai et que les élèves aient pas l'impression de se faire avoir ou qu'on joue un peu... un spectacle avec eux. On a beaucoup sollicité les élèves l'année dernière parce que les sanitaires des élèves dans notre établissement sont dans un état pitoyable, que les élèves évitent d'y aller des journées entières parce que c'est trop sale. Et donc on a fait tout un travail avec les élèves. Les élèves ont fait une pétition, on a été en contact avec le département, on a fait beaucoup de réunions. Et là, il y a eu un vrai processus où les élèves avaient... leur parole était entendue parce qu'ils étaient les premiers concernés et où on leur a laissé choisir aussi des choses ensuite parce que le département a accepté de refaire les sanitaires. Donc, les peintures, est-ce qu'on met des miroirs, est-ce que le type de luminaire, etc. Il y a plein de choses qui ont pu être décidées par les élèves, qui ont créé eux-mêmes leurs questionnaires, qui ont récolté eux-mêmes les avis et les ont présentés au département. Et donc là, on avait un peu l'impression qu'il y avait quelque chose où ils s'auto-organisaient. Et puis finalement, le département n'a pas tenu ses promesses et n'est jamais venu refaire les sanitaires comme c'était prévu l'été dernier. Donc je pense que c'est aussi des choses qui nous bloquent. Enfin, c'est tellement un immense truc, l'éducation nationale et toutes les personnes qui rentrent en compte, que comment faire pour donner l'impression aux élèves qu'on... leur laisser des espaces d'autogestion. Si après nous on n'est pas capable de leur donner l'impression que ça a servi à quelque chose, quoi.
Ah bah c'est sûr que la prochaine fois que tu leur demandes leur avis, il y aura moins de participation, je pense. Enfin, oui, ça, pour le coup, je pense que c'est difficile. Bah là, de toute façon, moi, c'est toute la question de l'organisation entre notre système qui est hyper étatique, hyper centralisé, enfin, surtout la France, et comment dans cette structure, cette métastructure, on arrive à créer des zones d'autonomie où, grosso modo, on peut fonctionner en autogestion sans que l'État vienne nous dire « Ah bah non, ça, c'est pas vous, ça, vous pouvez pas, ça, vous avez pas le droit. » Enfin, voilà, mais ça, c'est... C'est colossal comme question, j'ai l'impression, quoi. C'est quoi votre apprentissage à travers tout ça? Qu'est-ce que vous avez découvert de vous? Qu'est-ce qui a profondément changé chez vous d'avoir rencontré des structures où se pratiquait l'autogestion? Vous pouvez avoir un petit moment de réflexion, si vous voulez, d'abord. Hein. Tu commences, Laurie?
Il y a tellement de choses que c'est dur de trouver le truc qui m'a fait profondément bouger. Mais je pense que, de façon un peu globale, ces espaces-là d'autogestion, ils m'ont permis beaucoup d'apprendre à me connaître parce qu'il y avait des espaces où je pouvais évoluer, où je pouvais prendre des initiatives, où j'ai rencontré des personnes, où j'ai appris plein de choses. Et j'ai l'impression que ça a été des espaces vraiment d'émancipation de façon un peu générale, mais au final, de façon très... Enfin, qui s'est répercuté de façon très concrète dans ma vie, dans plein d'endroits différents. Ça a été un espace de politisation aussi, énorme. À Avenir Climatique, on parlait de sujets climat, mais en fait, on a aussi parlé de beaucoup d'autres sujets via, justement, le fonctionnement autogestionnaire et la limitation de rapport de pouvoir. On a parlé beaucoup d'oppression systémique, donc ça a été aussi la porte ouverte sur d'autres choses sur lesquelles je travaille beaucoup aujourd'hui avec le Laboratoire des Résistances. Donc ça a été, en tout cas, cet espace-là, ça a été mon premier espace de politisation qui m'a mené ensuite vers plein d'autres choses. Et je pense que cet espace de politisation, il a été par le fond de ce qui était porté, bien sûr, mais aussi vraiment par le modèle d'organisation qui était mis en place, et par ce qu'on a vécu là-dedans, et par l'espace que ça m'a ouvert, moi, pour prendre la parole, pour apprendre à prendre la parole, pour parler de ces sujets, pour s'organiser, organiser des formations. C'est un espace hyper puissant politiquement, et ce que je trouve aussi assez vibrant, c'est que on n'a pas, enfin, quand on parle d'autogestion, on peut en parler au niveau du collège, quand on peut essayer de l'imaginer, de le projeter, de tester des choses au niveau du collège, au niveau d'un groupe sportif, au niveau d'une association climatique, au niveau d'un festival, à plein d'échelles différentes. Et en fait, quand on entend autogestion, parfois, on a l'impression qu'il faut être super anarchiste, super radical, super politisé, ou en tout cas, on l'associe à ces contextes. Mais en fait, ça peut, comme tu le disais aussi un petit peu tout à l'heure, tu peux avoir plein de personnes qui viennent d'endroits différents et cheminer dedans, et te politiser dedans. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir toutes ces notions théoriques au début, mais ça peut s'apprendre aussi au fil du temps, par l'expérience et par la théorie. Mais du coup, ouais, je pense que la transformation principale, peut-être, au final, c'est peut-être la politisation.
Et toi, Angèle ?
Mais j'ai l'impression que Laurie a dit tout le positif, donc je vais pas répéter. Mais je pense que ce que ça m'apporte aussi, c'est... aussi, enfin, du coup, du côté négatif ou pas négatif d'ailleurs, mais c'est de plus en plus de difficultés à accepter la hiérarchie et les décisions sous prétexte qu'elles viennent d'une personne qui a été nommée au-dessus de moi. Je crois que, bon, c'était pas des choses que j'acceptais facilement avant, mais je pense que maintenant... J'ai toujours envie de me dire, mais venez, on en parle tous ensemble, puisqu'on est concernés, là, on s'assoit autour d'une table, on discute, parce que moi, je trouve que c'est pas très logique ou pertinent, ou que peut-être que d'autres personnes s'y connaissent mieux. Donc, ouais, il y a ce côté-là aussi. Mais sinon, non, vraiment, Laurie a tout dit, ça m'a apporté tellement, en termes de politisation, de capacité, si ce n'est à... ou bien m'exprimer ou m'exprimer avec aisance, en tout cas me dire que ma parole est légitime et que la parole d'autres personnes qui peuvent aussi prendre du temps ou ne pas oser ou parler tout bas, elle est aussi légitime et voilà.
Merci en tout cas pour ce partage, merci d'avoir creusé ce sujet et je vous dis au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire d'A.
Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee.
Les bourgeois détestent l'anarchie.
Les bourgeois, c'est comme les cochons.
Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle.
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente.